Écoute, la première fois que j'ai eu l'idée, c'était, je crois, cet été, là, au mois de juillet dernier. J'ai appelé tout de suite Oussama, parce qu'on se connaissait bien et parce qu'ils savent. Je trouve que The Family a fait vraiment un truc assez incroyable, ouais, 6-7 ans sur l'entrepreneuriat en Europe, et je leur tire mon chapeau, et donc j'ai tout de suite appelé un peu les meilleurs, quoi. Donc j'ai dit à Ouss, écoute, j'ai l'idée de faire ce truc là, qu'est-ce que t'en penses? Et il m'a dit, bah écoute, viens, on le fait un peu ensemble, avec grand plaisir. Je me suis dit qu'il y avait vraiment un espèce de vivier fort et que ça valait peut-être le coup de faire un lieu où tout le monde puisse se réunir, se connecter, et surtout donner la motivation à des plus jeunes, hommes, femmes, français ou pas, de se lancer sur le sujet.
Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Je m'appelle François Allais, je suis le créateur de ce média et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, ce 18e épisode. J'ai rencontré Cyril Paglino en décembre dernier et je vous garantis que son parcours vaut le détour. Il a arrêté ses études à 15 ans pour se consacrer à la danse, il a été champion de France et vice-champion du monde de breakdance. Il a monté plusieurs boîtes, dont une agence de communication digitale Wheezy et une startup Tribe. Avec Wheezy, il gérait les intérêts de Jamel Debbouze, Zinedine Zidane ou encore de Gad Elmaleh sur les réseaux sociaux. Avec Tribe, plus de 3 millions d'utilisateurs et 6,5 millions d'euros levés en 3 ans. En 2019, il cofonde The Garage, un incubateur dédié à la blockchain, avec Oussama Hamar de The Family et Fabrice Lefessan de Dune Network. Avant de lancer l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour recevoir les prochains épisodes, de vous abonner sur YouTube pour voir les épisodes en vidéo, de vous abonner au compte Instagram @serialentrepreneur avec un S et un underscore à la fin. Et moi, je vous souhaite une excellente écoute et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao. Salut Cyril.
Salut, comment
bienvenue
ça va?
Bienvenue sur Serial Entrepreneur, ça va très bien. Et toi?
Très bien, merci de m'inviter.
Donc bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, on va retracer un peu tout ton parcours d'entrepreneur.
Okay.
Donc ça va être cool.
Clairement.
Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation.
Bah, je t'en prie, tu rigoles. Merci
de m'accueillir ici chez The Garage.
Ouais, merci.
Avant de commencer, j'aimerais que tu parles un peu de avant d'entreprendre. Je sais que tu as été pas mal dans le breakdance, trois fois champion de France,
ouais.
Vice-champion du monde. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette époque de ta vie?
Ouais, carrément. Bah, ça a commencé assez jeune. J'ai commencé la danse à 12-13 ans. Il y avait le foot et la danse. J'étais dans mon quartier, dans le 78, en banlieue parisienne. Et voilà, avec la MJC, donc les maisons de la jeunesse et de la culture du quartier où j'habitais, il y avait des cours de danse très peu chers l'été. Et donc, je crois que c'est l'été 98 ou 99. J'ai 13 ans parce que je suis de 86. Donc, ouais, l'été 99, où je commence à m'intéresser un peu à ça. Et puis, j'étais un petit jeune pré-ado, ado, plutôt agile et sportif. Et du coup, la danse me marchait bien. Et j'ai commencé vite à me prendre de passion là-dessus. Et puis après, ça a duré pendant 10-12 ans de ma vie où c'était mon métier ensuite. Et donc, voilà, donc en gros, commencé en 99. En 2003-2004, je commençais à être assez bon et aller à Châtelet-Léal, un peu la mecque du hip-hop en France. Je rencontre plein d'autres gens. Je crée mon groupe de danse avec des copains qui viennent d'Orly, d'Evry, de Trappes, mais aussi de Caen et du Mans. Okay. Donc, un drôle de mix.
Ouais.
De gens que je vois tous les week-ends en fait, et on devient vraiment un groupe à part entière. Et voilà, on fait des battles, donc c'est les compétitions dans la danse évidemment, de plus en plus, d'abord en France, ensuite en Europe, ensuite dans le monde entier, et à terme avec l'équipe, mon groupe qui s'appelle Légitime Obstruction, on finit à être tous pro, sponsorisés et à en vivre jusqu'en 2009, voilà. Donc c'était une époque chambée parce que voilà, c'est le sport de haut niveau, avec des gens, ça te construit déjà physiquement, mentalement aussi. Je pense que ça m'a beaucoup appris sur la persévérance, sur la remise en question, sur l'effort de soi, etc. La générosité aussi, parce que tu es en groupe, donc c'est un truc d'équipe. Et voilà, et beaucoup de voyages aussi, quasiment 60 pays en 8 ans, donc beaucoup de voyages. vraiment une expérience assez incroyable. Mais du coup, le côté négatif de ça ou pas, hein, mais c'est que j'ai arrêté l'école très jeune, en 3e des collèges, donc à 15 ans et demi, pour du coup ne faire que de la danse. Donc en gros, de mes 15 ans à mes 21 ans, c'est vraiment 8 heures par jour. Je vis, je respire, danse. Et c'était chouette.
Ok. Voilà. Ensuite, tu as eu un peu de télé-réalité. Est-ce qu'on peut en parler un peu
Ouais, carrément. Bah, en gros, j'étais à l'époque au Mexique en 2008, où je passais quelques mois là-bas pour la danse, évidemment, toujours avec mon équipe. Et j'étais blessé depuis quelques mois au poignet, à mon poignet droit. Une tendinite classique, mais de plus en plus douloureuse. Et j'ai tenté plein de trucs, de l'infiltration jusqu'à la cryothérapie, jusqu'à voilà, 1000 trucs. Et j'ai toujours très très mal. Je ne sais pas trop ce que je vais faire les prochains mois. Les médecins me disent d'arrêter 6 mois ou de me faire opérer. C'est deux options qui m'horrifient un petit peu. Mmh. Et c'est drôle, à l'époque, on est sur MySpace, c'est pré-Facebook, on est sur MySpace. Et je reçois un email d'une société de casting qui travaille pour Rendez-Mol, ouais. Qui elle bosse pour TF1 notamment beaucoup, et qui me propose ce projet de faire une émission de télé. Donc moi je suis au Mexique, on est au mois de mai. Je vis dans le sud du Mexique, à Guadalajara. Et je sais que je vais pas danser les prochains mois, je sais que j'ai pas non plus beaucoup de taf, visiblement. Okay. Et je me dis, écoute, pourquoi pas faire ce truc-là ? Ça fait des années que je suis plus vraiment en France, moi. J'y reviens au compte-gouttes, évidemment, beaucoup. Mais je vis vraiment à l'étranger. Et donc, je me dis, pourquoi pas ? De toute façon, j'ai pas d'ambition de faire carrière en France. J'ai pas d'ambition de faire carrière non plus à la télé. Mmh. Donc, je me dis, c'est quand même bien payé, ce truc. C'est à 18 ans, ouais. À l'époque, dans 20 ans, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc, je me dis, bah, je vais tenter de le faire et y aller comme un job d'été. Et donc, je fais ce truc-là, je gagne un peu d'argent. Je finis ce jeu et après, je commence le début de ce qui va être ma suite d'entrepreneur.
Voilà. Voilà. Justement, on y vient à ce déclic. Qu'est-ce qui, ouais, a fait que tu as entrepris ?
C'est drôle. Alors, la première raison assez factuelle que j'énonce souvent, c'est que j'avais pas de diplôme. Et donc, je pense que j'aurais eu un taf nulle part, pour être assez honnête. Ça, c'est vraiment ce qui vient de façon automatique. Après, si je retrace un peu qui je suis et ce que j'ai fait avant, déjà, ne serait-ce qu'arrêter l'école à 15 ans et faire que de la danse et en faire du haut niveau, c'était déjà assez entrepreneurial quand même, déjà. De se, ouais, dire, je vais sur un sentier un peu moins battu, carrément, et tu vois. Et donc déjà, ça, c'était un chemin déjà un peu courageux. Alors à 15 ans, t'es inconscient quand tu le fais. Ouais, mais en arrière, c'était quand même... c'était un choix. Et dans le groupe de danse que j'avais, on était une dizaine de personnes et je m'occupais un peu du site en ligne, des contenus, des photos. Tu vois, j'avais ce petit côté, alors pas du tout manager, mais un peu genre... vas-y, on danse très bien, mais le soir et week-end ou le soir, qu'est-ce que je fais, quoi. Donc je m'occupais, okay, en mettant des trucs en ligne, etc. Donc je pense que naturellement ayant pris, alors pas le lead, mais un petit peu le poste du committee manager en 2005, 6, 7, tu vois, du groupe, de gérer le blog, de raconter les histoires, de mettre en avant les trophées. Moi, je pense que tout ça m'a aussi un petit peu appris à gérer un mini-projet, tu vois, qui était mon projet. Et après, du coup, après la danse, c'était une logique que, un, j'allais avoir de job nulle part, et deux, j'avais envie de faire des trucs par moi-même, quoi. Donc j'ai commencé à réfléchir à des sujets et j'ai essayé, voilà, en gros.
Ok. Et on y vient à ta première expérience d'entrepreneur. Donc c'était chez Wheezy, c'est bien ça.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en parler de Wheezy?
Ouais, carrément. Wheezy, c'est une boîte que je crée en 2009. Avec Mickaël Houtmesguin, mon associé de l'époque, et on était très jeunes, hein, j'avais 24 ans, il en avait 22, je crois, donc, ou j'avais 23 ans, il en avait 21, un truc comme ça, donc c'était vraiment, on était assez jeunes, 2009, 23 ans, voilà, j'avais 23 ans. Et donc l'idée, c'est de se dire, au fil des années avec la danse, et les shows que j'ai pu faire aussi artistiques à Paris, donc j'ai dansé pour des rappeurs, pour des copains chanteurs, etc., ouais, j'avais un petit réseau d'artistes et de sportifs aussi, qui comprenait pas grand chose à la révolution internet qui est en train d'arriver. Là, on est en pleine dans l'époque Facebook, mais ouais, près Twitter. Tu vois, il n'y a pas, okay, Twitter encore vraiment, yes, beaucoup en France. Et en 2009, moi, j'ai mon compte Twitter que j'ai depuis début 2009. Donc, j'étais vraiment parmi les... Alors, pas les premiers, mais la seconde vague, si tu veux, Twitter en France. Et donc, je vois qu'il y a un intérêt et un usage super fort aux US. On parle à l'époque du début de Justin Bieber qui explose. On parle de Lady Gaga qui vient d'exploser en 2009, qui vient de faire son truc Poker Face, qui vient d'exploser. Ouais. Et c'est des gens qui ne communiquent que en top-down via leur compte Twitter. Donc c'est un nouveau modèle aussi pour la communication artistique, parce que du coup tu passes plus par ton attaché de presse, les maisons de disques et les médias traditionnels, mais en un tweet tu peux citer Lady Gaga par exemple ou Justin Bieber, toucher des millions de gens. Et ça, c'est, voilà, c'est pas encore arrivé en Europe, donc je me dis qu'il y a un vrai sujet. Et donc je monte une agence autour de ça qui s'appelle Wheezy, et l'ambition, c'est d'aider les artistes et les sportifs français, ou du moins les célébrités, les talents français, à communiquer en ligne. Donc ça va de, on vous crée votre site, votre e-boutique ou votre e-shop, on vous crée votre Twitter, et très vite on vous le certifie, parce qu'on travaille avec Twitter main dans la main, donc on certifie, ouais, les gens sur Twitter. Et comme ça, on a aidé et collaboré avec Jamel, Johnny Hallyday, Gad Elmaleh, l'équipe de France de football, jusqu'à, je sais pas moi, 1995, Nekfeu à l'époque, avec qui on était assez potes, jusqu'à Lafouine, Rof, tout l'univers un peu urbain et sportif, okay, français, et média aussi pas mal, Nikos aussi également. Et donc voilà, donc ça a duré pendant 2 ans. Le modèle de Wheezy, c'était de prendre des commissions sur les ventes en ligne des objets, merchandising des artistes. Ce modèle se plante un petit peu et il est difficilement rentable. Et donc on se met à pivoter un peu et on devient plus B2B et on devient une agence de création de contenu ou de placement de produits.
Okay.
Et ça, c'est la seconde vie de Wheezy après 1 an et demi, 2 ans de pivot là. Et là, on commence à faire du chiffre d'affaires. On est une équipe de 10 personnes et on se met à facturer aux agences créatives, Frédéric Farid, Buzzman, Marcel, ouais, McCann, etc. Aux agences médias, Havas Media, OMG, voilà, tout cela, et des marques en direct. et on bosse pour une trentaine de marques, une vingtaine d'agences. On fait des petites opérations, hein, je crois que c'est un peu tailor-made. Et là, on commence en 2010-2011 à faire les premiers posts sponsorisés, qui sont maintenant très connus évidemment. Mais pour le coup, sans aucune prétention, je crois qu'on est un peu les premiers, je crois, en Europe.
C'était ultra précurseur quand même.
Ouais, on faisait des tweets. L'idée était simple. Hein. T'étais un artiste et tu disais que ce produit était vachement bien, ouais. Avec un storytelling évidemment. Mais on a fait des centaines, mais au moins 80, voire une centaine de posts sponsorisés avec Jamel, Gad Elmaleh, Zidane, l'équipe de France, etc. Ouais. Pour des clients comme Orange, Coca, Orangina, Lanvin, Volvo, voilà.
Okay.
Et Lacoste. Donc ça c'était marrant. Et donc on crée les formats vraiment à la volée parce que tu vois comment tu price un tweet sponsorisé à l'époque, tu vois.
C'est clair.
Jamel qui a 500 000 followers sur Instagram, sur Twitter. C'était même pas Instagram à l'époque.
Ouais.
Et tu dis voilà, on va le pricer, je sais pas moi, 10 000 balles, allez, c'est un peu cher, 8, ok, 8. On appelle l'agence média. Voilà, c'était vraiment comme ça. Mais c'était intéressant. Et voilà, et la boîte du coup, je l'ai cédée juste après en 2013. Okay. Donc 3 ans et demi, 4 ans après la création. Une autre boîte de publicité bien plus grosse que nous qui s'appelait Change, et voilà, donc les équipes de Weezy sont parties chez Change, moi j'ai fait quelques mois aussi chez Change et je suis parti ensuite sur d'autres aventures, voilà.
Ouais, donc c'était hyper précurseur dans le social media dès 2009-2010, ouais. C'est ouf quand même.
Franchement, ouais, il y avait un mec aux US, c'est très drôle parce que c'est un très bon ami maintenant, il y avait un mec aux US qui s'appelle Sean Rad qui faisait une boîte à l'époque en 2010 au même moment que Weezy qui s'appelle Adly. Donc ADLY, ouais. Et Ali avait levé 15 millions de dollars et il faisait les tweets sponsorisés de Shakira, Madonna et Cristiano Ronaldo. Donc le niveau d'au-dessus, quoi, tu vois. Et Ali, c'était un petit mec qui s'appelle Sean Rad, qui à l'époque avait 24 ans et qui maintenant, depuis, milliardaire américain assez connu parce qu'il a créé Tinder entre temps. Voilà.
Okay.
Et donc moi, je parlais avec Sean entre temps et à l'époque, et on s'envoyait des petits messages, on s'est perdu de vue pendant 7-8 ans. Et quand, fast forward, j'ai déménagé à Los Angeles il y a 3 ans, mon voisin, c'était Sean, et du coup, on a été mis en relation par Google Venture. On est devenu très copains, et depuis, c'est un pote et c'est un investisseur aussi de ce lieu. Voilà, okay. Aussi, c'est drôle.
Super.
Mais il a mon âge, il est très jeune. Moi, je suis moins jeune maintenant, mais il a 32 ou 33 ans.
Voilà. Ok.
Et voilà.
Donc, une première expérience entrepreneuriale assez solide, quand même.
Ouais, ouais. Après, l'acquisition était une micro-acquisition, oui. On n'a pas non plus fait beaucoup de cash, mais ça a été. Créer une boîte, lever des fonds, on avait levé à peu près 500 000 euros à l'époque, pivoter, développer du business, malheureusement se séparer d'une équipe d'ingénieurs parce que le produit était très techno à la base, pour ensuite aller vers une équipe plus commerciale et créative, et après céder le bébé, voilà, donc toutes les conditions, les étapes, apprises un peu sur le tas, sans un grand succès non plus, mais au moins avec un petit background, et donc du coup je me retrouve à 25 ans avec ce truc-là, et puis après je pars sur d'autres horizons, voilà.
Ok, et après tu crées Tribe, donc ça c'est plus un modèle startup pour le coup.
Complètement. Ouais.
Est-ce que tu peux en parler?
Ouais, en gros, déjà, quand j'étais sur Weezy à fond, un peu en mode agence, j'avais ce rêve un peu de produits scalables et de produits consumer. J'étais déjà très, très plugué, levée de fonds, TechCrunch, Sequoia, je m'attendais ce qui se passait aux US. Et donc, quand la fin de l'aventure Tribe arrive en début 2013, je passe quand même un an et demi à Paris où je fais autre chose. Je rejoins une agence de publicité qui s'appelle Buzzman, où je
bossais
pendant un an là-bas. C'est des copains, ça se passe super bien et le taf est super. Mais au bout d'un an pile, 12 mois, je dis à Georges, qui est le fondateur, et à Thomas, son associé, que j'étais venu pour quelques mois et là ça fait un an et je sens que j'ai besoin d'aller sur un truc plus entrepreneurial. Et ils le comprennent carrément, donc ils me souhaitent tout le courage. Et juste après, je pars sur le projet Tribe, qui démarre l'été 2015. Et on part à San Francisco pour développer du coup ce sujet en septembre 2015.
Okay.
Et donc de là je pars avec Laurent, Nicolas et Thiago, donc mon équipe un peu fondatrice sur Tribe, deux ingénieurs et un designer, et on part à San Francisco, on prend Airbnb, on sait pas comment on va bouffer dans un mois, mais c'est marrant. Et en fait on se met à rencontrer des gens là-bas, à lancer le produit, à lever des fonds, avec des fonds prestigieux comme Sequoia notamment, Capital et Kleiner Perkins, mais aussi beaucoup d'autres, et on apprend un million de trucs, et c'était 3 ans vraiment incroyables, en plein SF, en plein
le concept,
au cœur de la vallée, quoi.
Le concept de Tribe, c'était quoi?
Alors on a pivoté à un moment donné aussi, mais au démarrage c'était une application de messages vidéo, donc tu te réimagines un peu la note vocale de WhatsApp, mais vraiment avec la vidéo pure. C'était une application plutôt bien designée avec une interface assez spéciale où en un bouton avec ton pouce tu peux parler un peu qui tu veux dans tes contacts et faire un message vidéo, donc comme un snap si tu veux,
comme un snap, ouais.
Extrêmement pensé, rapidité, efficiency, et avec une belle UX. Et après ça a changé, ça a pivoté en une application de vidéo call où là c'était le FaceTime de groupe, si tu veux.
Okay.
Sauf que on lance ce produit qui plaît vachement aux US, et 6 mois après, Apple annonce qu'ils font le FaceTime de groupe et on se dit non, l'enfer.
Voilà. Ouais,
malheureusement, on a dû encore une fois se réinventer ensuite. Mais voilà, c'était de la messagerie axée sur la vidéo. Ça a démarré asynchrone et ça a fini synchrone, donc live. Voilà, en gros.
Donc là, pour le moment, aucune aventure blockchain. Et donc ensuite.
Non. Non, alors aucune affaire blockchain, mais tout de même en 2013.
À quel moment tu t'y intéresses?
Ouais, alors blockchain beaucoup plus tard que ça. Par contre, Bitcoin, 2013, en novembre 2013. Ouais.
Tu commences à investir ouais, un peu.
C'est même pas investir pour le coup, parce que je sais même pas ce que c'est à ce moment-là. Mais c'est sous les conseils de 2-3 potes à Paris.
Ouais, un peu de spéculation. Et donc,
ouais, ils me disent juste, viens, vas-y, essaie ce truc-là. On m'en parle début 2013, quand je vends Wheezy d'ailleurs. Et je n'en achète que quelques-uns en novembre 2013. Donc je mets quand même 6 mois à passer le cap, parce que c'est compliqué à l'époque. Il y a très peu de documentation en ligne, rien en français. Mon anglais est pas non plus horrible, mais à l'époque, mais j'avais quand même, c'était un peu compliqué d'y aller sur le sujet en BTC et comprendre ce qui était le sous-jacent. Donc voilà, j'en achète vraiment tout petit peu, juste pour comprendre. J'oublie que j'en ai. Et c'est en fin 2015, début 2016 à San Francisco, où là, on m'en reparle beaucoup, donc du Bitcoin, mais aussi des altcoins, donc la révolution qui arrive avec notamment Ethereum. Et là, je fais connaissance avec des gens dans la vallée, des copains qui sont des fondateurs de boîtes blockchain aussi, ou crypto. Henri et Juan qui sont chez qui ont créé Protocol Lab, notamment Filecoin, qui est un des gros projets qui avait 200 millions à l'époque à San Francisco. Ils sont à YC, donc on se rencontre là-bas. Et après, voilà, je vois que là-bas, en tout cas, on en parle de plus en plus. Et donc, je me dis qu'il y a un sujet. Je me mets à étudier un peu le sous-jacent technologique, donc les systèmes pair à pair, le chiffrage moderne et la blockchain. Et là, je me dis qu'il y a un sujet intéressant qui n'est pas juste Bitcoin, mais tout ce qu'il y a autour de tout ça. Et donc, je commence à m'y intéresser à ce moment-là. Voilà. Donc, un peu sur le tard tout de même, mais voilà, il n'est jamais trop tard. Même encore aujourd'hui, ouais, si vous démarrez, allez-y, c'est pas trop tard.
Et donc, du coup, tu crées Starchain Capital, donc un fonds d'investissement uniquement dédié aux crypto-actifs et à la blockchain.
Exactement. Un peu après, ça vient début 2017 et l'ambition c'est de se dire, j'ai une bande de copains qui ont un peu de moyens, dont Sean notamment fait partie, mais qui n'ont pas forcément les connaissances nécessaires ou le temps pour s'y plonger. Et donc ensemble on se dit, est-ce qu'on ferait pas un petit véhicule comme ça pour réunir un peu de capitaux et puis pour le manager entre potes. Donc c'est ce qu'on fait et ça commence comme ça, puis ça se professionnalise un petit peu en 2017-2018. Et ça fait 1 an et demi maintenant, quasiment 2 ans. Et voilà, on a déployé sur une bonne quinzaine de sociétés, 80% américaines, quelques-unes françaises.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces boîtes
Ouais, carrément. Bah, la thèse du fond, globalement, c'était infrastructure. Donc ça peut être tous les niveaux, toutes les boîtes, toutes les briques qui vont amener le développement de la technologie et son adoption dans le futur sont intéressantes. Donc ça peut être de la base, genre Coinbase. On est rentré dans Coinbase il y a quasiment 1 an et demi, 2 ans. Là où, pour le coup, c'est vraiment, tu comprends l'idée,
une
banque achat-vente de crypto, jusqu'à une boîte française de SaaS, qui s'appelle Kaiko par exemple, où là, pour le coup, c'est même pas une boîte crypto, c'est juste une boîte qui fait de la data, un peu comme un Bloomberg financier, sauf qu'ils font que de la data crypto ou d'actifs digitaux. Et donc, c'est une boîte, ils sont à Paris, ils sont une petite quinzaine, ils font un modèle SaaS et ils facturent à les grandes entreprises une historique de data sur toutes les achats et les ventes de différentes cryptos. Et leurs clients, c'est des gouvernements, des institutions et des boîtes. Donc tu vois, c'est même pas une boîte blockchain, c'est juste une boîte de data en gros. Et après, des boîtes beaucoup plus protocole ou crypto-based, ça va de Augur en passant par Maker notamment, ou jusqu'à Textile, qui est un peu moins connu, qui est une boîte américaine, qui fait de la data et de la data privacy en ce moment. Voilà, donc ce type de boîte. Donc plein de blogs différents, finance, marketplace, infra aussi, low level et protocole. Voilà.
Okay.
Et donc on investit en token, on prend des tokens ou de l'equity. En 2017, la molle était au token et aux ICO, donc on a quand même fait quelques deals dans ce sens-là. Maintenant, on voit quand même 90% des deals sont en equity. Il y a assez peu de tokens. À part si vraiment tu es un protocole pur et que tu as vocation à avoir un écosystème, là, du coup, tu fais un token, mais c'est assez rare maintenant.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de blockchain, justement? Comment on peut définir, présenter la blockchain à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien?
Ouais, c'est jamais un exercice évident. Moi, si je le raconte à un pote qui connaît pas ou quelqu'un de ma famille qui connaît pas, je dis toujours que c'est une technologie qui est relativement nouvelle, qui a été mise en lumière il y a 10 ans, qui a été mise en lumière par un produit qui s'appelle le Bitcoin, qui est donc une monnaie virtuelle ou une valeur refuge virtuelle, ou du moins électronique, parce que virtuelle, elle existe, elle est juste pas matérialisable physiquement. Donc voilà, donc la blockchain, c'est une technologie qui a été mise en avant il y a 10 ans, notamment par le Bitcoin, mais qui peut servir à bien d'autres usages, bien d'autres dans plein de secteurs. Et en fait, dès lors où tu as une transaction ou un middleman, donc une plateforme, un intermédiaire, un tiers de confiance au milieu d'une transaction, et que ce tiers de confiance est une machine ou un humain, on peut le remplacer par potentiellement une technologie blockchain. Et donc, les avantages que ça crée, c'est que ça peut fluidifier une transaction, la rendre plus rapide, la rendre moins coûteuse, la rendre plus sécurisée. Ouais. Voilà, en gros, c'est un peu les définitions principales. Après, c'est pas parce qu'il y a un intermédiaire qui a forcément une blockchain. Il y a plein de boîtes qui se proclament être dans l'univers blockchain, mais qui n'ont pas vraiment d'intérêt concret. Et il y a d'autres cas d'usage beaucoup plus forts et qui méritent de s'y pencher. Donc voilà, il faut faire un peu le tri. J'en parlais notamment avec Adli Lao, qui est le Ido écosystème de The Garage. On en parlait quelques jours et il y avait un truc marrant. On se disait qu'il y a toujours des termes comme ça où qui sont très mis en avant par les boîtes B2B pour vendre du conseil à leurs clients, comme Big Data, comme AI, comme Machine Learning, comme Blockchain. Et en fait, qui sont des termes qui sont mis en avant dans le marketing B2B ou en conseil B2B, qui ne sont pas encore adaptés du consumer et donc du grand public. Et du coup, personne ne les comprend parce qu'ils sont partout dans les médias. Tu vois la Coupe du Poing, la Big Data.
Les gens se disent un peu bullshit.
Et tu sais même pas ce que c'est en fait. Tu vois, moi, je me souviens, il y a 2-3, il y a même 4-5 ans, le mot Big Data, à un moment donné, il était partout. Quoi, tu vois. Et je me dis, mais c'est quoi Big Data? C'est plein de data dans un... Enfin, je sais pas ce que c'est. Quoi.
C'est clair.
Et il y a toujours plein de définitions et c'est jamais très simple de comprendre ces concepts avant qu'ils soient dans la vie de tous les jours. C'est comme de parler d'Internet aujourd'hui. Bon, bah, ça fait. Tout le monde sait à peu près ce que c'est maintenant, mais t'en parlais en 95, c'était dur de le décrire parce qu'il n'était pas encore dans les usages. Aujourd'hui, tu reflètes Internet à tes usages. Bah, Internet, c'est Wikipédia, c'est Facebook, c'est Uber, c'est Airbnb. Voilà. Donc, comme t'as pas encore ces usages-là dans ta tête assez concrètement, c'est compliqué de refléter un usage.
Ok. Et tu penses quoi du futur de la blockchain, toi?
Alors, c'est une question assez large. Je pense que c'est une techno qui a vocation à être adoptée dans beaucoup de domaines et de secteurs. Au moins une dizaine. Je pense pas que ça va transformer le monde d'aujourd'hui. Je pense que ça va tout de même pas mal bouger le monde du business. Je sais pas si ça va être aussi gros qu'Internet était il y a 20 ans, mais je pense que c'est une des technologies, comme il y en a à peu près tous les 10 ans sous forme de plateforme, qui va changer beaucoup de choses. Et je fais souvent le parallèle avec les années 50, 60, où il y a la mode du hardware qui est arrivée. On a eu IBM qui est arrivée. Ensuite, on a eu des ordinateurs, il fallait bien faire un truc avec. Quoi. Tu vois, on avait juste des beaux ordis un peu chers. Ensuite, du coup, tu as Microsoft qui a sorti un pack office et qui a sorti pas mal de software. Pas que, évidemment, mais Microsoft notamment. Donc, on pouvait ensuite avoir des ordis et des logiciels qui font des choses dessus. Ensuite, en 80, tu as eu l'étape 1 Internet, donc vraiment le 90, pardon. Le web 1, où tu pouvais juste consulter en ligne et avoir un accès à un contenu. Donc, tu pouvais pull, mais pas push. Publié sur Internet. Le web 2 qui est un web beaucoup plus social où tu as effectivement l'arrivée de Wikipédia, des blogs, de Twitter, de YouTube, donc tout le contenu participatif. Et donc on pouvait enfin lire mais aussi écrire et publier sur Internet. C'est le cas des forums notamment, c'était une époque un peu folle. Et là on parle de l'adoption ou du moins de l'avènement du web 3 qui est le même web en termes de je peux lire et je peux écrire, mais je peux aussi exécuter des choses et faire confiance via la blockchain notamment, les systèmes pair à pair et l'encryption. Donc c'est jamais que la blockchain, c'est toujours plusieurs technologies mis bout à bout. Mais ce web-là, tu pourras exécuter des choses avec l'automatisme et faire confiance notamment à du code et pas forcément à un humain au milieu d'une transaction. Donc ça, c'est intéressant. Et ça, je pense que c'est un truc qui va arriver dans les prochaines années, qui est en train d'arriver, qui va prendre du temps, évidemment. Mais donc oui, je pense que ça va évoluer en tout cas le monde du web aujourd'hui, le monde du business, le monde des transactions et que ça va être tout bénef pour le consommateur parce que dans tous les cas, ça réduit toujours les intermédiaires, c'est toujours moins cher et c'est toujours plus sécurisé. Donc à la fin, c'est plutôt... que des bonnes choses pour le consommateur final.
Ça va être une évolution logique du web, en fait.
Je pense, ouais.
Ok. Pour revenir à ton parcours, on va parler forcément de ce lieu magnifique qu'est The Garage, que tu as cofondé avec Oussama Amar de The Family et Fabrice Lefessan, président de Dune Network.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en parler? C'est-à-dire, alors déjà, c'est quoi le The Garage? Et quels sont les objectifs de ce lieu?
C'est vraiment Oussama, la personne d'Oussama, mais c'est vraiment l'équipe de The Family qui nous aide au quotidien. Et donc Nicolas également, Alice, toutes les équipes, Balthazar, Mathias qui font un taf super, Maud également, enfin Erika, ils sont pleins. Mais toute l'équipe qui est vraiment aujourd'hui très très présente et qui se consacre beaucoup aussi au garage, donc c'est chouette de leur part. Chez Dune, pareil, c'est toute l'équipe de Dune, représentée par effectivement Fabrice, mais toute l'équipe. Et donc le métier du garage, alors on pourrait le définir en trois parties. La première, globalement, on est un incubateur blockchain. On est 500 mètres carrés dans le centre de Paris et on parle de blockchain. Ça, c'est en une phrase. Après, les trois métiers, la première, c'est qu'on fait un peu comme The Family. On va prendre des participations dans des boîtes qu'on va aider au quotidien, avec notamment l'infrastructure pour se développer et les gens ici dans ces bureaux qui sont disponibles pour eux, du PhD, notamment en système pair à pair ou sur des sujets blockchain pointus, jusqu'à du légal, du design, du product, du marketing, de la communication. Donc, que des métiers ici disponibles pour les boîtes sur les sujets de la blockchain. Donc des experts. Après, un réseau aussi d'angels, de VC, de corporate qui sont prêts à collaborer avec les startups, c'est aussi vachement important. Et moi, mon réseau aussi US, évidemment, où je peux faire des ponts, faire des passerelles, faire des intros. Donc voilà, on dit à l'entrepreneur en venant chez nous, tu auras effectivement une infrastructure plus développée, tu pourras parler de blockchain à plus de gens et on pourra t'aider à aller plus vite. Voilà, en gros. Ça, c'est le métier 1. Et on tend à aider entre 25 et 30 boîtes par an. On avait dit 20-25 et on a tellement de candidatures qu'on va peut-être augmenter un peu le palier.
Okay.
Mais voilà, en gros 25 par an. Et le second métier, c'est les corporates. Donc là, c'est assez simple. On fait de la découverte blockchain avec les grands groupes français. C'est de c'est quoi la blockchain? Deux, dans votre métier, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ensemble? Et trois, si ça vous intéresse, on fait un POC ensemble et on développe des choses ensemble. Et donc, nous, on est un peu l'offre de A à Z sur ces trois thématiques. Et le dernier sujet, c'est qu'on va enseigner ou du moins apprendre à coder. Alors, pas moi, évidemment, mais les équipes qui sont dispo, notamment dans la salle de formation qui est en bas, ouais. Là, au sous-sol, où on a une salle de classe d'environ 30 élèves disponibles. Il y a beaucoup de cours le soir et le week-end. Et on enseigne à différents développeurs. Aujourd'hui, que développeurs, mais plus tard, j'espère qu'on apprendra aussi à des product managers ou des designers à faire des métiers liés à la blockchain. Et donc, on leur apprend entre guillemets à coder sur différentes stacks. Alors, on démarre sur Ethereum, évidemment, mais il y a d'autres fondations, d'autres protocoles. Et l'ambition à terme, c'est que le garage soit complètement agnostique. Et donc, on puisse former tout type de profil à tout type de stack au quotidien ici. Donc voilà, école de formation, corporate pour leur montrer ce qui se passe et leur expliquer, voir si on peut faire des choses ensemble, et startup pour se développer et grandir. Voilà un peu les trois modèles.
C'est cool, super.
Ouais, c'est chouette, on est content.
Et donc, n'importe qui pourra être formé ici.
Complètement. Alors, pour l'instant, il faut un minimum de background parce que c'est pas des choses très très simples, et donc on veut le faire en quelques semaines. Donc, on demande un minimum de background aujourd'hui. Ça tend à évoluer avec des cours en ligne notamment qui vont arriver ensuite. Mais c'est le projet, c'est aussi de. Il y a un besoin, il y a une techno, maintenant il faut qu'il y ait des profils aussi qui soient compétents sur le sujet. Il faut que les corporates s'y intéressent plus. Enfin, là, il faut juste que la mayonnaise prenne au même moment. Et si t'as pas de développeurs mais une vraie demande, t'as une pénurie. Si t'as trop de développeurs mais pas de demande, bon bah, il y a aussi une pénurie. Il faut que tout ça grossisse en bonne intelligence.
Voilà. Okay. Et donc c'est un lieu unique en France et en Europe, c'est ça?
Ouais, écoute, franchement, il n'y en a pas
d'autres. Il n'y a pas d'équivalence.
Ouais, non, pour le coup, alors il se passe plein de choses à Londres, plein de choses à Berlin, Paris bouge vachement bien. On n'est pas le seul lieu consacré à ça. Hein. Qu'on s'en six à 500 mètres là-bas, c'est magnifique et ils font un super boulot. Mais un lieu comme ça, agnostique, avec ces trois lignes de métier, oui, je crois que c'est le seul. J'ai pas été voir partout en Europe, mais je crois que c'est le seul. En tout cas, en termes de proportion et de gens consacrés au développement, oui, là, on a une quinzaine de personnes full-time, on a 500 mètres carrés, on est là tous les jours, on fait des meet-ups toutes les semaines, on avait Polkadot la semaine dernière, Kleros la semaine d'avant, on fait un gros hackathon là en janvier. Voilà, on est très actifs, quoi. C'est l'ambition.
Et dans ton process, justement, à quel moment tu t'es dit, je vais. Ouvrir un incubateur blockchain, ça a duré combien de temps le moment de l'idée à aujourd'hui l'ouverture?
Écoute, la première fois que j'ai eu l'idée, c'était, je crois, cet été là, au mois de juillet dernier. J'ai appelé tout de suite Oussama parce qu'on se connaissait bien et parce qu'ils savaient. Je trouve que The Family a fait vraiment un truc assez incroyable en 6-7 ans sur l'entrepreneuriat en Europe, et je leur tire mon chapeau. Et donc j'ai tout de suite appelé un peu les meilleurs, quoi. Donc j'ai dit à Oussama, écoute, j'ai l'idée de faire ce truc là, qu'est-ce que t'en penses? Et il m'a dit, bah écoute, viens, on le fait un peu ensemble avec grand plaisir. Donc il en a parlé à toutes les équipes de The Family qui étaient super sympas et partantes aussi. Et donc on s'est mis d'accord là-dessus et on a juste réfléchi au modèle. En septembre, on est rentré à Paris avec Damien notamment. On a commencé à chercher des lieux et à monter un peu ce modèle. Et voilà, on a ouvert en novembre et là on est en décembre. Donc c'était vraiment assez rapide.
C'est allé extrêmement rapidement.
Ouais, c'est allé assez rapidement. Non, c'est vrai qu'on a été assez vite. Moi j'étais en Californie depuis quelques années, comme tu le sais.
Ouais.
Et en revenant cet été à Paris. Je me suis dit, si je reviens, c'est pour faire aussi un truc qui m'excite un peu. J'avais un sujet familial où effectivement j'avais envie de passer plus de temps avec ma famille en France, donc je suis aussi revenu pour ça. Mais quand j'ai vu l'écosystème de boîtes, quand j'ai vu des gars de chez Wharton, Spot, Multis, Kaiko, toutes ces boîtes affiliées à la blockchain qui se développaient avec des super équipes, des super projets, je me suis dit qu'il y avait vraiment un espèce de vivier fort et que ça valait peut-être le coup de faire un lieu où tout le monde puisse se réunir, se connecter et surtout donner la motivation à des plus jeunes, hommes, femmes, français ou pas, de se lancer sur le sujet. Et donc c'était l'objectif du lieu et voilà, ça fait trois semaines qu'on a ouvert, mais trois mois qu'on bosse dessus. Voilà.
Ok, donc ça a été cofondé avec The Family, mais aussi avec Dune Network.
Ouais.
Dune Network, on en entend de plus en plus parler.
Ouais.
Est-ce que tu peux un peu sur ce projet?
Carrément. Dune, à la base, c'est simple. La genèse, c'est une équipe d'ingénieurs françaises assez incroyable qui s'appelle Ocaml Pro. C'est des mecs qui ont entre 30 et 45 ans, qui développent dans un langage de programmation français qui s'appelle le OCaml, qui était créé en 95-96 à l'INRIA en France. Aujourd'hui, OCaml, c'est connu dans le monde entier. Alors c'est évidemment intime, hein, ces développeurs, donc il y a quelques dizaines de mecs, dizaines de milliers de personnes dans le monde qui codent en OCaml.
Okay.
C'est un langage formel qui est extrêmement sécurisé, qui est utilisé aujourd'hui par des boîtes comme l'INRIA évidemment, mais Dassault, Facebook aux US, Docker notamment aux US. Et donc ces boîtes-là utilisent OCaml en open source. Et OCaml Pro est une des plus grosses agences en Europe qui développe le code open source et qui facture à ses clients notamment.
Okay.
Donc voilà ce que fait OCaml Pro. Il y a 4 ans,
3 ans au Camel Pro, rejoint en partie l'équipe de Tezos pour développer le protocole Tezos, qui est assez connu, qui est un protocole blockchain aujourd'hui dans le top 15 des gros protocoles mondiaux aujourd'hui. Et au bout de 2 ans et demi, 3 ans de développement, une petite friction au sein du management, les gars de Camel Pro ne sont pas forcément très contents, s'en vont il y a maintenant 8 mois, 10 mois quasiment. Et à ce moment-là, je les rencontre moi, j'étais déjà assez, je les connaissais évidemment, j'étais un peu flatté et ravi de les rencontrer physiquement parce qu'ils sont assez connus ouais. dans le monde entier, hein, chez ouais. Facebook, ils sont adorés, enfin, ils sont vraiment très reconnus. C'est des gens vraiment tous PhD en file verification, en peer-to-peer system.
Okay.
C'est vraiment pour moi l'équipe de développement.
Que des experts.
Ouais, en Europe, c'est vraiment dans la crème de la crème. C'est pour ça qu'ils sont si sollicités aussi, évidemment. Et donc voilà, et donc quand je les rencontre, le fit passe vachement bien. Et ils me disent qu'ils aimeraient bien développer leur propre blockchain, qu'ils ont beaucoup contribué à Tezos et qu'ils aimeraient faire un truc un peu différent, mais avec les mêmes bases notamment. Et donc ils décident de faire un fork de Tezos. Un fork, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, ouais. c'est en gros comme ce qui s'est passé avec Bitcoin et Bitcoin Cash, ou Ethereum et Ethereum Classic. Mmh. En gros, c'est une équipe de développement qui développe un protocole open source, imaginons Bitcoin, et qui à un moment donné se divise dans sa vision et dans son entente, et il y a deux chemins qui partent, un à droite, un à gauche, et la boîte continue d'avancer avec deux produits différents, et c'est plus okay. la même, c'est jamais une boîte, hein, c'est les fondations et les protocoles, mais en gros avec ouais. deux lignes différentes. Donc c'est ce qui s'est passé, et donc effectivement, dans le monde de la crypto, quand un fork arrive, il y a beaucoup de lobby, et il y a beaucoup de pression aussi, parce que quand tu divises en deux, tu divises en deux aussi la valeur, évidemment. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient pro-Tezos et qui ont investi de l'argent dedans et de l'énergie dedans, qui étaient déçus de voir un fork arriver, qui étaient déçus de voir Camel Pro partir aussi parce qu'ils étaient connus comme étant une très bonne équipe de développement au sein de la communauté Tezos. Donc tout ça a fait beaucoup couler beaucoup d'encre. Mais voilà, ça fait quelques mois maintenant, le protocole est live. L'équipe de Camel Pro, qui s'est renommée du coup maintenant Origin Lab, qui est un peu plus de 10 ingénieurs aujourd'hui, qui sont juste là-haut à l'étage.
Okay.
Code d'arrache-pied sur Dune, qui avance très très vite. Le protocole a été mis en ligne en septembre dernier.
Ouais.
Depuis, il y a eu Block Explorer, le navigateur, les applications iOS Android pour les wallets. Et là, la semaine dernière, on a lancé Metal, qui est un peu le MetaMask de Dune. MetaMask étant une des applications les plus utilisées sur Ethereum, qui est un plugin pour faire du transit de coin ou de token ou du coup du paiement en ligne directement sur Chrome.
Okay.
Donc c'était lancé là sur Dune. C'est des mecs qui codent extrêmement vite, extrêmement bien et on est ravis de les soutenir. Alors c'est pas facile tous les jours parce qu'effectivement c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre,
ouais.
mais on pense que Dune a une vraie place dans le marché européen pour être un des protocoles, si ce n'est le protocole leader sur les 5 prochaines années. Pour ça, il faut beaucoup bosser, mais c'est en tout cas la vision. Voilà.
Ok. Et dans les investisseurs de Dune, il y a des grands entrepreneurs français, dont Xavier Niel aussi.
Ouais.
Donc c'est pour ça, c'est un projet qui est bien soutenu.
Ouais, il y a une trentaine d'angels chez Dune. Il n'y a pas de fonds d'investissement volontairement. Et il y a effectivement Xavier qui est un des petits investisseurs. C'est le plus connu, mais il y en a beaucoup d'autres. Des anciens, la génération 1 du web, ceux qui ont en gros fait des super produits dans les années 2000. Je pense à Jean-David Blanc, je pense à Marc Simoncini et ouais. Xavier notamment. Il y a la génération un peu plus jeune qui a fait des super produits dans les années 2010. Je pense à Alexis et Antoine de Vodou, de Zenly par exemple,
ouais.
Par exemple. Je pense à Alexandre de Vodou également, Yann et Otman de Chauffeur Privé. Donc tous ces Oussama évidemment, Damien Morin aussi, voilà, donc tous ces gens là aussi sont présents dans l'aventure Dune et c'est super et voilà, non, on est bien soutenus. Et quelques Américains, Sean Rad le fameux qui a créé Tinder aussi, qui est aussi capital de Dune, voilà. Et donc on avance bien, le challenge est assez énorme. Tezos a levé 250 millions de dollars, nous on a levé 1,5 million de dollars, donc voilà, t'imagines bien la différence de taille. Donc on se bat avec nos armes qui sont une équipe de développement qui est extrêmement talentueuse, le marché français qui apprend parce qu'il n'y a pas d'acteurs aujourd'hui en France, c'est que beaucoup de grands groupes sont ravis de parler à une blockchain française détenue par des Français avec une association de loi 1901 basée en France et pas Neo qui est chinois ou Ethereum qui est canadien, américain ou Tezos qui est pour le coup basé en Suisse. Donc là, ils sont vraiment contents d'avoir accès à une blockchain française avec des gens qui sont à Paris, disponibles ici, et tout ça rassure vraiment. Donc là, on avance sur ce sujet aussi en parallèle.
Ok. Donc après avoir parlé un peu de ton parcours, de toute ton aventure entrepreneuriale, on va parler de choses qui m'intéressent aussi, c'est les rencontres et les prises de décision. Et donc, dans un premier temps, les rencontres, j'aimerais te poser cette question. Quelles sont, cite-moi des rencontres qui ont marqué ta vie d'entrepreneur. Je sais qu'il y en a beaucoup,
plein, évidemment.
Je te demande d'en retenir quelques-unes.
Ouais, c'est une super question, il y en a plein. amical, ça remonte à très jeune, et des gens qui m'ont beaucoup aidé. Dans la danse, tout mon groupe, mais Mohamed notamment, qui était un mec un peu plus âgé que moi à l'époque, qui m'a beaucoup appris dans la danse, qui était un peu mon mentor dans la danse. Donc Mohamed, c'est un des premiers mentors. Après, mon amie Sandra, qui m'a beaucoup appris aussi quand j'ai arrêté la danse et quand j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat. Je ne savais pas vraiment écrire sans faute d'orthographe parce que j'avais arrêté l'école à 15 ans. Donc elle m'a fait prendre les bécherelles, elle m'a fait apprendre à parler français, écrire français. Et ce n'était pas gagné avec mon niveau à l'époque. Sandra, évidemment. Après, Pascal Mercier sur Wheezy, parce que j'ai levé des fonds grâce à lui. C'était un leveur de fonds français assez réputé. On s'est rencontrés sur Twitter au hasard d'un tweet. Il a été assez incroyable. Et on est devenus amis depuis maintenant, ça fait 10 ans.
Okay.
Donc Pascal Mercier, qui je dois beaucoup aussi. Emmanuel Vivier, qui est un publicitaire français, entrepreneur, qui avait créé Vanxen, une agence de publicité. Maintenant, Emmanuel aussi, il a créé le Hub Forum à Paris.
Ouais.
Voilà, Emmanuel m'a beaucoup, beaucoup aidé aussi. Il fait partie de ces gens qui ont été dans ma route et qui m'ont beaucoup aidé. Après, on avance un peu plus loin. Georges Mohamed Chérif, qui a créé Buzzman, qui est un de mes meilleurs amis maintenant, évidemment, et qui est un de mes mentors aussi, pour qui j'ai énormément de respect et qui m'a beaucoup aidé depuis 10 ans. Et voilà, après aux États-Unis, sûrement l'équipe de Sequoia qui a été vraiment très présente, Roloff, Matt et Stéphanie chez Sequoia qui m'ont beaucoup aidé aussi, conseil pour arriver à SF jusqu'au visa en passant par le funding et jusqu'à les échecs et les petits succès. Donc c'était vraiment super de les avoir. Et voilà, après plein d'autres, mais dans les grandes lignes, c'est cela, quoi, je pense. Ouais, voilà.
Et concernant les décisions, prise de risque, est-ce que tu peux me citer deux, trois décisions, prise de risque que tu as prises qui t'ont permis de franchir un cap dans ton parcours?
Bah déjà le fait de me consacrer à 100% à la danse, à l'âge que j'avais à l'époque, c'était pas évident.
C'est clair.
Le fait de d'essayer de monter une boîte sans bac, sans brevet des collèges, sans notion comptable, sans rien, c'était pas évident. Et après, je pense le fait de partir de France, ça s'est décidé vraiment sur un mois, quoi. J'étais bien à Paris, j'avais tous mes amis, toute ma famille, c'était ma ville, quoi. Et en quelques semaines, on se dit, ok, pour réussir ce projet, pour tenter de réussir en tout cas, ce projet Tribe notamment, il faut qu'on aille aux États-Unis parce que c'est là-bas que ça se passe pour ce sujet-là. Et donc voilà, partir, tout vendre, avoir une valise et s'en aller, c'était aussi
En fait, dans ta carrière, il n'y a que des grosses prises de risque, en fait.
Ouais, quelque chose, je pense. Mais je pense que c'est...
Du début à la fin.
Ouais, mais je pense que c'est quand même, c'est commun à beaucoup d'entrepreneurs, tu vois.
Oui.
Je pense que c'est... Pardon pour le bruit. Je pense que tu es obligé de prendre des décisions un petit peu challenging si tu veux avancer.
Ouais, non, c'est clair. Et donc, nouvelle question. Quels sont les conseils que tu donnerais à un jeune entrepreneur qui veut se lancer?
Déjà d'être curieux, je pense que c'est toujours été la première qualité qui m'a fait moi avoir envie de faire des choses. Être curieux dans le sens où quand il y a un sujet qui t'intéresse et que tu te dis ah peut-être qu'il y a un sujet où je pourrais creuser pour en faire un business ou du moins pour apprendre, bah, d'aller dans les bons endroits, dans les forums, sur Twitter, choper les experts, faire une curation de liste de gens qui en parlent intéressante, aller au bout du sujet, devenir un peu pas expert mais connaisseur, et ensuite assez facilement sur Twitter parler et engager avec les gens qui font ce secteur là, oser leur parler avec, en étant en proposition de valeur évidemment et pas juste demandeur. Voilà, ça c'est vraiment important, je pense, oser, mais surtout être curieux. Et c'est bien d'envoyer un email cold à quelqu'un ou un DM à quelqu'un, juste voilà, t'auras qu'une chance de lui parler, donc fais-le bien avec la bonne question ou la bonne demande. Et généralement les gens répondent quand c'est bien fait, donc voilà, je pense que la curiosité c'est vraiment important.
Ok.
Et après voilà, pas baisser les bras évidemment, mais ça c'est propre
à cette activité. Oui, c'est sûr. Ouais. Ok. Et une autre question concernant tes inspirations, quels sont les gens qui t'inspirent, les boîtes qui t'inspirent aussi?
Les boîtes qui m'inspirent, c'est une bonne question. Bah écoute, moi j'étais, alors pour le coup, très inspiré, c'est facile à dire, parce que, mais par Sequoia évidemment, quand je les ai rencontrés, quand j'ai vu leur process de décision, quand j'ai vu la façon dont ils traitaient les entrepreneurs aussi notamment, j'ai eu l'occasion de passer beaucoup de temps avec eux parce que leur bureau était près de chez moi à San Francisco et j'étais le seul français de leurs investissements. Leurs autres investissements à Sequoia, pour rappeler un peu, hein, depuis 40 ans, c'est Apple, Google, Netflix, PayPal, Cisco, eSports, voilà, juste c'est le plus gros fonds et le plus successful depuis maintenant 40 ans, créé par Don Valentine, et leur premier chèque, ou leurs trois premiers chèques, c'est Apple à l'époque. Dans le film d'Apple, le mec qui rentre dans le garage et qui va voir Steve Wozniak et Steve Jobs, c'est Don Valentine qui a créé Sequoia, qui leur file un chèque d'un million de dollars. Donc voilà, c'est assez iconique. Aux États-Unis, tout le monde connaît Sequoia. Dans la culture quotidienne, c'est presque pop, tu vois.
Ouais.
C'est vraiment des gens très, très, très talentueux. Et donc, de la rencontrer, c'était déjà fantastique. Bosser avec eux, c'était incroyable. Et apprendre de leurs conseils au quotidien, c'était vraiment chouette.
Je suis vraiment impressionné par la façon dont ils font du business et par la façon dont ils développent le business et qu'ils sont premiers depuis 40 ans avec une rigueur sur les années qui est assez incroyable malgré les crises et les différents mouvements et les virages technologiques, tu vois, du hardware au software au mobile. Ils ont toujours réussi à être au top et encore aujourd'hui ils font les meilleurs deals et ils ont le nom qui rayonne dans le monde entier, donc ça c'est assez impressionnant.
Okay.
Et après, oui, non, plein d'autres, j'imagine, mais évidemment, comme tout le monde, les boîtes d'Elon Musk, bon, tu vois, c'est facile à dire.
Voilà, tu l'as déjà rencontré ou pas, non?
Ouais, si, parce qu'il est, il est très affilié à Sequoia et du coup, j'ai eu l'occasion de faire des dîners, petit comité.
Okay. Avec Elon.
Ouais, j'ai même sur, dans mes stories Snapchat à l'époque et sur Instagram, je l'avais snappé plusieurs fois.
Ouais.
Et j'avais des, bref, mais c'était, ouais, je lui ai parlé moi, mais il était à une table 10, on a passé une soirée ensemble. Il arrivait en hélicoptère dans le champ et il arrivait au dîner, quoi. Dans un dîner dans un champ pour un bootcamp en campagne.
Okay.
Voilà, c'est Elon Musk, quoi. Mais c'était chouette, impressionnant, ouais.
Ok, et c'est quoi le futur pour toi?
Pour l'instant, c'est un peu Paris. Je repasse en Californie toutes les 5-6 semaines. Mais là, je vais emménager à Paris il y a une semaine. J'étais à l'hôtel pendant plusieurs mois, c'était un peu chiant. Là, ça, je suis ici. Le futur, c'est de lancer à fond The Garage, de continuer à convaincre les différents groupes, entreprises et corporate français, mais pas que, qu'il y a un sujet qui devrait regarder le sujet de la blockchain de plus près, de continuer à investir et trouver des bons deals sur StarChain, de continuer à m'amuser aussi, évidemment, et à apprendre des trucs. C'est ça.
Ouais, très bien.
Naïf, mais j'y crois vraiment.
C'est parfait.
Cool, merci beaucoup.
Et donc, dernière question, quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour des prochains podcasts?
Français
ou, ouais. Ou anglais, si le podcast.
Ouais, ouais, non, mais y en a plein. Hein. T'as un Vivier à Paris qui est assez incroyable.
Oui,
hein.
Ouais.
Je sais pas, on l'a mentionné qui tout à l'heure, on a mentionné les gars de Zenly notamment, Alexis et Antoine qui ont fait un truc incroyable avec Zenly, je leur tire mon chapeau. Alex de Vaudou qui fait un truc incroyable sur le mobile gaming en ce moment et avec une boîte qui est vraiment sublime. Mais après, il y en a plein d'autres que tu connais, Damien Morin que tu connais très bien, Oussama, ce serait chouette aussi. Voilà, il y en a plein de gens qui sont dans notre génération, du moins peut-être les plus jeunes, mais dans la mienne, qui ont une trentaine d'années, qui sont très dispo à Paris, qui adoraient, je pense, te rencontrer. Donc. Ouais, t'as de quoi faire. Thomas chez Mirou qui fait un truc incroyable en ce moment. Quentin chez Frishti. Enfin, il y en a plein de gens brillants en ce moment à Paris. Okay. C'est pas ce qui manque.
Super, bah merci Cyril pour cet échange.
Merci.
Et puis à bientôt sur The Garage ou ailleurs.
J'espère, vous êtes bienvenus les gars, comme vous voulez.
Ciao.
Cool, à la prochaine.
L'épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté en intégralité. Pour ma part, j'ai encore besoin de vous. Et oui, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note sur Apple Podcast et à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite. Vous pouvez également m'envoyer votre feedback par mail à françois@serial-entrepreneur.fr. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bises et à bientôt.